Europe 1 Culture Média.
9h, 11h.
Philippe Vandel.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Ravi de finir la semaine avec vous, ce soleil et Culture Média. Au menu, médias et culture au sens large, tous les médias, toutes les formes de culture. Aujourd'hui, par exemple, l'actualité des séries avec une nouveauté et l'actualité gastronomique avec des beignets. Oui, Laurent Mariotte sera avec nous. Vous retrouverez aussi, évidemment, Bruno Donnet pour ses télescopages. On est vendredi, il va nous faire son bilan de la semaine. Et en fin d'émission, un autre bilan avec Marc-Antoine Lebray et ses voix multiples. Notre info média va célébrer les 30 ans du magazine Marie-Claire Idée, précurseur du Do It Yourself. Self, le faire soi-même, le recyclage, c'était la mode il y a 30 ans, c'était devenu ringard et c'est désormais presque une obligation. Nous serons avec sa rédactrice en chef qui était déjà au journal il y a 30 ans, jeune stagiaire. Et puis nos invités, Ismaël Khalifa, l'un des quatre présentateurs d'Échappée Belle, l'émission de voyage de découverte de France 5. Ce qui nous intéressait, c'est que l'épisode de ce soir, de demain soir, pardon, n'est pas consacré à un paysage de rêve, mais à la vallée de la Roya au-dessus de Nice. Paysage de rêve, oui, mais meurtri par le passage de la tempête Alex. Enfin, le chanteur Matt Pokora pour ses grands débuts au théâtre, Les Grandes Ambitions. C'est une comédie avec Estelle Lefébure et Philippe Lelouch et ça démarre ce soir. Il y aura aussi son portrait d'avant la célébrité. Il n'a pas eu le temps d'être pas célèbre. Il était connu dès l'âge de 17 ans avec Lisa Marie Marquez pour le portrait pré-fame. Nous sommes ensemble jusqu'à 11h. Culture Média, c'est parti. Et bonjour Louise Bernard,
je n'ai pas cité. Bonjour.
Les audiences, c'est le journal des médias. D'abord au sommaire du journal des médias.
Le grand retour de Danse avec les stars. On va faire un point sur toutes les nouveautés. Ensuite, Nagui qui tire les leçons de son échec de samedi dernier. Une étude aussi sur la place des femmes dans les fictions de télévision. Encore des progrès à faire. Un documentaire événement sur M6. Et puis on terminera comme souvent par des petites actus séries.
Mais d'abord les audiences qu'ont regardé les Français hier soir.
Ils ont largement regardé la fin de la mini-série Mensonges sur TF1 avec Audrey Fleurot et Arnaud Ducré. 5 770 000 téléspectateurs devant le premier épisode. 27% de part d'audience, finale en hausse. Et puis deuxième, M6 avec sa série 911. Le premier épisode a attiré 2 210 000 téléspectateurs. 10,2% de part d'audience, c'est à peu près comme la semaine dernière. Troisième, Envoyé spécial, France 2, 1 810 000 téléspectateurs, 9% de part d'audience. C'est à peu près ce que fait l'émission désormais le jeudi soir. À noter le bon score de W9 avec le match Glasgow-OL, 1 300 000 téléspectateurs, 6,4% de part d'audience. W9 qui est donc quatrième. Et à noter aussi le flop, on peut le dire, de Allez viens, je t'emmène sur France 3 qui était changé de case, qui a été diffusé pour la première fois un jeudi soir. 1 million de téléspectateurs, 5,5% de part d'audience. France 3 qui est donc derrière TF1, M6, France 2, W9 et TMC également.
Culture Média.
On passe au journal des médias avec un grand retour ce soir, l'émission Danse avec les stars. Louise Bernard fait la Corée sur sa chaise.
Oui, alors pas du niveau de ce que vous allez voir ce soir. L'émission revient après 2 ans d'absence à cause du Covid. L'émission phare de TF1 revient avec des nouveautés. Premier changement majeur déjà, le jour de diffusion. Ben oui, c'est plus le samedi soir, hein, ça passe le vendredi soir. Camille Combal, lui, continue de présenter le show, mais seule désormais, sans Karine Ferry. Elle s'occupera uniquement de la deuxième partie de soirée pour recueillir les confidences des candidats et revenir sur leurs prestations. Côté jury, seul Chris Marquez rempile. À ses côtés, 3 petits nouveaux. François Allu, danseur de l'Opéra de Paris. Denitsa Ikonomova, nouvelle dans le jury, mais pas dans le programme. Elle est une des danseuses historiques de l'émission qu'elle a remportée 4 fois déjà. Peut-être que TF1 en avait marre de l'avoir remporté le trophée. Ils l'ont mis dans le jury. Et puis dernier jury très prestigieux, l'ancien couturier Jean-Paul Gaultier. Ce qui ravit Karine Ferry et Camille Combal.
Je pense qu'il va avoir cette corde sensible qui fait que c'est quand même un très très grand couturier. Il fait des shows magnifiques. Un défilé, c'est un show. Donc on est très bien, c'est cohérent pour Danse avec les stars, c'est tout à fait cohérent.
C'est le Wikipédia de Danse avec les stars, Jean-Paul Gaultier. Il connaît chaque gagnant, chaque saison. Et voilà, il aime bien le programme, il est hyper content de pouvoir y participer. Et nous, c'est une chance immense, Jean-Paul Gaultier, quoi. C'est fou, quoi. C'est un événement. C'est comme si Messi arrive au PSG, dans cette histoire, on a Jean-Paul Gaultier, quoi.
Très fort en métaphore, ouais. Camille Combal. Jury qui va d'ailleurs avoir un peu plus de poids dans la compétition puisqu'il disposera cette année de buzzer magique pour qualifier d'office un couple de danseurs ou au contraire en mettre un en danger, directement envoyé dans l'épreuve finale du face-à-face. Encore faut-il que les jurés soient tous d'accord, il faut 4 buzz. identiques.
Mais pour l'histoire, le premier vainqueur, c'était Matt Pokora, qui sera notre invité en deuxième heure, mais ça n'a aucun rapport. Côté casting, justement, ça ressemble à quoi ?
13 candidats. Hein. Parmi les noms les plus connus qu'on peut citer, Bilal Hassani, Lam, Dita Von Teese, Lucille Lucas, Vaima Lama Chavez, Miss France 2019. Et puis cette année, beaucoup de recrues dont les noms parleront davantage aux jeunes téléspectateurs. Le youtubeur Michou, par exemple, la chanteuse Weshden, Lola Dubini aussi, humoriste, actrice, youtubeuse, chanteuse. Il lui manquait une corde à son arc, danseuse. Elle veut profiter de l'émission, en tout cas pour passer un message aux jeunes qui la suivent. Oui, c'est possible de danser en ayant du poids, sans avoir le même physique qu'on voit partout à la télévision.
Quand j'ai vu Valérie Damidot, quand j'étais plus jeune, faire une émission de déco, ça a été une petite révélation quand j'ai vu des femmes comme Laurence Boccolini, etc. à la télé. Je me suis juste dit, ok, donc ça veut dire que c'est possible. Et il faut plus de représentations positives dans les médias, mais pour tellement de choses, pour les physiques, pour les personnes atteintes de handicap, il faut qu'on ouvre les mentalités. Et cette émission, elle peut aussi servir à ça.
Autre candidat danseur, le chanteur Taïk, très populaire aussi auprès des jeunes, qui compte bien se faire connaître auprès d'autres générations en participant à l'émission. Et puis, il avait un petit challenge à relever.
Moi, je regardais moins l'émission. C'est ma mère qui regarde vraiment tout le temps. Et c'est vraiment un soir où je passe devant la télé dans le salon et elle me dit, quand tu seras une star, je me ferai le plaisir de me moquer de toi, tu verras. Je me suis tourné, je dis, tu sais quoi, je vais le faire quand je serai une star. Et je lui ai dit, quand je gagnerai, si je gagne, tu dormiras avec le trophée une semaine.
Alors, vous ne découvrirez pas. En revanche, tous les candidats ce soir, tous ne danseront pas. La présentation se fera en deux primes avec un couple de danseurs éliminés à chaque fois. Le retour de Danse avec les stars, première partie, c'est ce soir à 21h. 5. Oui, un vendredi soir désormais. D'ailleurs, Camille Combal a un dernier message.
C'est le vendredi, on va le marteler. C'est le vendredi soir maintenant. Même moi, je ne suis pas à l'abri de me pointer un samedi, de ne pas être là un vendredi.
Oui, car le samedi soir, c'est The Voice désormais.
Mais oui. Et sur France 2, The Artist, la nouvelle émission de Nagui.
Et le producteur et présentateur a décidé de faire quelques ajustements pour son deuxième prime après la mauvaise audience de samedi dernier. Il fallait réagir, hein. 1 300 000 téléspectateurs seulement. L'animateur a pris en compte les remarques des téléspectateurs et il promet une émission beaucoup plus courte en présentant moins de talents cette fois. 10 au lieu des 19 sélectionnés la semaine dernière. Les autres chanteront la semaine prochaine. Et puis, plus de candidats seront éliminés à chaque émission. Fini aussi les reprises de chansons. Tous devront désormais proposer une chanson inédite, écrite et composée par eux-mêmes. Et d'ailleurs, c'était le principe annoncé de l'émission à l'origine, oui. D'où l'étonnement et l'incompréhension des téléspectateurs samedi dernier, lorsqu'ils ont vu et écouté les candidats reprendre des chansons célèbres.
Et vous nous donnerez évidemment l'audience lundi matin, Louise, pour voir si ces changements ont payé. Télévision toujours, plus de femmes à l'affiche des fictions de télévision, mais moins au générique.
Oui, c'est le résultat d'une étude de l'INA qui a analysé la place des femmes dans 440 téléfilms et séries diffusés à la télévision en 2019. Résultat, 38% seulement de femmes occupent des postes clés. Elles sont sous-représentées dans les postes techniques et de pouvoir, constate l'INA. Et les disparités sont grandes côté réalisation, notamment 83% d'hommes. Quasi paritaire en revanche, du côté des scénaristes, 47% de femmes. C'est bien, mais il y a un mais. Quand on regarde dans le détail, les femmes sont en fait souvent co-scénaristes avec des hommes et non pas seules. Moins d'un quart des auteurs uniques sont des femmes. Allez, encore un petit effort.
Un documentaire événement dimanche soir sur M6 consacré aux coulisses de l'Élysée.
Pas les coulisses politiques, mais plutôt sur la diversité des personnes qui travaillent dans l'ombre, dans les cuisines, à la logistique, à la restauration du palais, au courrier aussi. Documentaire très riche, avec une cinquantaine de jours de tournage étalés sur 2 ans. Ce qui intéressait la co-réalisatrice Julie Martin, c'est l'aspect humain.
C'est un film qui n'est absolument pas politique. C'était vraiment pas l'objectif. L'objectif, c'était de se détacher un peu de ce lieu formidable qui fait bien sûr l'actualité, qui est le cœur du pouvoir et de la vie politique française, mais de mettre en avant vraiment, au premier plan, non pas Vladimir Poutine ni Emmanuel Macron, mais Rania, Arthur, Didier, Mathieu, chanteur de la Garde républicaine. L'idée vraiment, c'était de faire un focus sur ces gens ordinaires qui travaillent dans un lieu extraordinaire.
Et pour la première fois à la télévision, les journalistes ont pu filmer le GSPR, c'est le groupe de sécurité du président de la République. Évidemment, il a fallu négocier pour pouvoir le suivre et travailler dans des conditions particulières.
Il fallait absolument pas gêner le dispositif de sécurité dès que le président partait à droite à gauche en déplacement, ce qui a impliqué que Manuel, donc mon co-réalisateur, soit seul sur ces séquences-là pour ne pas alourdir le dispositif, parce que bon, quand le président se déplace, c'est quand même pour les hommes qui veillent à sa sécurité toujours un moment délicat. Mais Manuel a pu donc assister à la fois à leur session d'entraînement et puis suivre plusieurs déplacements. Bon, après, toutes les techniques n'ont évidemment pas été filmées parce que, vous l'imaginez bien, il y a certaines choses qui doivent demeurer confidentielles pour assurer la sécurité de la personne du président.
La coulisse inédite et passionnante, Julie Martin, qui est donc co-réalisatrice de Élysée dans les coulisses du palais avec Manuel Lègre, s'est diffusée dimanche à 21h05 sur M6 dans Zone Interdite.
Elle est co-réalisatrice avec un garçon. On termine le journal comme promis avec une actualité série Cadmérade et Olivier Barou qui se lance dans l'adaptation d'un film qui est devenu culte.
Mais oui, leur film, mais qui a tué Pamela Rose va devenir une série pour Canal+. Information du Parisien. À l'origine, le film est une parodie des séries policières américaines. On n'en sait pas plus sur le scénario ni une possible date de sortie. Pour l'instant, le duo est dans la phase d'écriture de la série. Il va donc falloir attendre encore un petit peu.
Et pour découvrir le prochain journal des médias, il faudra attendre lundi. Merci beaucoup, Louise Bernard. Bon week-end.
Merci, bon week-end.
Dans un instant, notre info média du jour focus sur un magazine qui fête ses 30 ans, Marie-Claire Idée. 80% des Français sont des fidèles du do-it-yourself, en français, le faire soi-même. Et Marie-Claire Idée était pionnier du sujet. Nous serons avec sa rédactrice en chef, elle s'appelle Camille Soulayrol. Elle était déjà là il y a 30 ans, jeune stagiaire. A tout de suite sur Europe 1.
9h, 11h.
Europe 1, Culture Média.
Philippe Vandel.
Le faire soi-même, le précurseur en la manière, c'est le magazine, en la matière, pardon, et en la manière aussi, c'est le magazine Marie-Claire Idée. 30 ans que ce titre de presse met en avant le do-it-yourself, appelé plus communément DIY en anglais. Et donc 80% des Français se sont emparés. Confectionner ses propres vêtements, faire pousser ses fruits et ses légumes, créer des objets ou des meubles pour la maison, peindre soi-même. Le recyclage, c'était la mode, c'est devenu ringard et c'est presque désormais une obligation. Comment, à l'heure des réseaux sociaux, Marie-Claire Idée a su se renouveler? 30 ans de do-it-yourself, ça ressemble à quoi? Et pour demain? Quid? Réponse avec la rédactrice en chef, Camille Soulayrol, bonjour.
Bonjour Philippe, bonjour tout le monde. Alors moi je suis épatée par ce résumé que vous venez de faire. C'est brillant, je me suis dit mais il a préparé le truc. C'est exactement ça. Non mais c'est vrai, je suis épatée.
J'adore cette idée, vous avez dit il a préparé le truc. Vous pensiez qu'on pouvait faire une émission de radio
non,
sans
mais
la préparer
je me dis,
vous
allez
dire qu'il y a beaucoup de gens qui font ça.
Non
mais
je me suis dit vous faites tellement de choses. Non en fait je trouve que c'est un très bon résumé. C'est 30 ans de DIY, donc ça a été branché, c'est devenu ringue, ça redevient branché. Et surtout, c'est une nécessité. En fait, ce mot, il est très juste, donc bravo.
On l'a dit, vous êtes la rédactrice en chef de Marie-Claire Idée. Vous êtes arrivée en stage à l'âge de 21 ans, de jamais être partie. Michel Stéphanie, le directeur de la rédaction, est arrivé comme maquettiste sur le premier numéro. Il est toujours là, 30 ans après, c'est quasiment unique. Il y a une explication ou pas?
En fait, il y a un truc de... Oui, en fait, il y a une explication, c'est que c'est magique. En fait, c'est un endroit qui est assez dingue, c'est unique au monde. En fait, c'est un magazine qui est unique au monde dans le fait qu'il... Il dit aux gens, non pas de consommer, mais de faire. Donc ça a déjà une éthique assez particulière, qui a un sens aujourd'hui plus que jamais. Et surtout, on n'est pas, j'avais envie de dire, parce que j'ai un peu préparé l'émission, je me disais, oui, on est un peu une famille. Non, on n'est pas une famille, parce qu'une famille, ça s'engueule. On est une équipe. Non, mais on est une équipe de gens qui partageons les mêmes valeurs. Voilà. On aime, et en vrai, on est assez éclectique. C'est-à-dire qu'on aime aussi bien aller voir une grande exposition, aller à refaire. Mais on va s'intéresser à, je sais pas moi, un dimanche, on va aller voir le club de patchwork dans la maison, près de la maison de campagne. Voilà, donc c'est vraiment du 360 degrés et cet amour du fait main, de l'artisanat, de la culture.
Comment ça a commencé? Vous n'étiez pas tout à fait là, mais quand même un tout petit peu. Vous êtes arrivé comme stagiaire alors que le journal venait juste d'être lancé. Vous savez de quoi c'est parti? Il y a une étude de marché, une étude marketing.
Oui, non, alors
comment ça a démarré?
Alors en fait, c'est dément parce que ce magazine, il a été lancé en... En fait, il a eu un ancêtre qui s'appelait le Centidée, qui a été une espèce de bombe dans les années 70, avec les hommes faisaient des couvertures en patchwork, les femmes faisaient des pulls avec des moutons, que portaient les mecs qui fumaient des cigarettes sur des couvertures en patchwork. Tout ça, ça a été très kitsch, mais c'était dingue. C'était l'Arzac. Ok, donc ça a été des années de dingue. Et moi, je fais partie de cette génération où ma maman faisait ça, donc ces fameuses couvertures en patchwork et tout ça. Tout ça, ça a duré. Ça a duré jusqu'aux années 88. Ça s'est endormi, ça s'est arrêté. Et en fait, il y a eu Dominique Roche qui, il y a 30 ans, donc quelques années après la fin de Centidée, a été voir le groupe Marie-Claire et a dit « Mais il faut qu'on fasse quelque chose. Il faut qu'on fasse un magazine qui donne du sens, où on fasse tout soi-même, un magazine où il y ait de la déco, de la couture. » Et le truc dingue, c'est qu'elle s'entendait bien avec la boss du groupe Marie-Claire. Et la fille lui a dit, Elisabeth Provost lui a dit, mais vas-y, fais-le, monte ton équipe. Donc, en fait, c'était un truc fou parce que ce magazine, il est né d'une envie, il est né d'une inspiration. Et ce qui s'est passé, en fait, c'est moi, c'est là où je suis arrivée, en fait, ce qui a été dingue, c'est qu'il s'est passé un succès. En fait, le magazine, il a tout de suite cartonné. C'est-à-dire qu'il n'avait pas, il n'était pas, les gens ne l'attendaient pas, mais ça a été un succès immédiat et surtout, ça a été foudroyant. Donc, moi, en fait, on m'a embauchée à, je suis rentrée à 21. À 24, 25 ans, j'étais assistante, je bossais un peu. Puis à 25 ans, ils ont été submergés. On avait les chiffres de psychologie, on était à 300, 400 000 exemplaires. Et donc là, la rédaction m'a dit, écoute, c'est mignon que tu sois là un petit peu, mais est-ce que tu ne peux pas être là plus ? Donc moi, évidemment, j'ai sauté dedans, c'est-à-dire que j'étais à moitié aux Beaux-Arts, là j'étais là, enfin, et que c'est pas vraiment un métier, quoi. C'est très amusant.
Pour ce numéro spécial 30 ans de Marie-Claire Idée, vous avez fait le choix d'interroger des membres, des anciens membres de la rédaction, la journaliste Pascale Chastre notamment, qui dit « On travaillait beaucoup sans vraiment avoir l'impression de travailler, et puisqu'on on faisait en semaine ce que d'autres font le week-end, c'est-à-dire les brocantes. » C'est ça.
C'est exactement ça. En fait, c'est un métier, moi, ce qui m'amusait énormément, c'est que c'est un métier 360, c'est-à-dire que je peux très bien, le matin, aller aux Emmaüs, aller déjeuner avec la boss d'Emmaüs parce que je veux récupérer des robes de mariée, parce que je veux faire bosser les élèves de Dupéré et customiser des robes. Et puis, mais est-ce que c'est un travail, quoi ? Voilà. Donc, pour nous, c'est un travail, mais en vrai, pour la plupart des gens, on fait un métier très amusant. Par exemple, avant-hier, j'ai été en reportage et il a fallu que je fasse La Sirène.
C'est-à-dire ?
Voilà, bah c'est-à-dire que j'ai été invitée par l'Office de tourisme de Bretagne pour tester ce que c'est que d'être une sirène. Donc j'ai dû enfiler une combinaison et faire la sirène au fond des sables. Donc,
dans l'eau ?
Voilà.
Dans l'eau, la combinaison de sirène avec les pieds qui sont attachés dans un truc de poisson.
Voilà, voilà. Donc,
super, vous êtes resté combien de temps dans cette tenue ?
Bah, je suis restée 2 heures. Et
j'ai on verra quand les photos ?
Et j'ai sur mon compte Instagram. Et je raconte ça à mes enfants le soir. Et ma fille de 16 ans, elle voit les photos sur Instagram et me dit « Non, attends maman ». C'est pas vraiment un métier, ça. Mmh. Voilà. Donc, j'exagère, je rigole, mais c'est vrai que c'est très amusant.
Donc, vous êtes quand même un petit peu barré dans cette rédaction.
En fait, c'est une rédaction qui est très forte parce qu'on se connaît tous depuis longtemps.
Ouais.
On partage ses valeurs. On est tous très créatifs.
Ouais.
Et on est tous un peu, effectivement, on est tous un peu artistes, ou voilà, on est tous un peu en dehors des clous, quoi. Non,
là, en dehors des clous, c'est vraiment, vous êtes, j'allais presque dire, vous êtes même en dehors des vis, parce que j'avais encore jamais vu ça. Dans le numéro spécial green, donc je traduis, ça veut dire spécial vert, numéro Marie-Claire Idée, j'avais encore jamais vu. Normalement, on dit, il ne faut jamais mettre de photos sans légende. Là, il y a carrément des aplats de papier peint.
Non,
il n'y a rien d'autre. Je le montre sur europe1.fr. Il y a des aplats de papier peint.
Oui, non, parce qu'en fait, ça, c'est.
Moi, j'adore, mais je me dis, il faut être dingo pour faire ça, l'éditeur vous laisse faire.
C'est quoi
le but raconté ?
Alors, en fait, ça s'appelle. Dans la presse, il y a un mot pour ça. Ça s'appelle des goodies.
Ouais.
En fait, ça veut dire c'est un petit cadeau parce qu'on accompagne. Je sais pas, on va faire un sujet sur l'esprit William Morris, par exemple.
Je sais pas ce que c'est William Morris.
Ben, c'est un créateur anglais qui a fait beaucoup de textiles, qui est très connu pour ses motifs, et on va accompagner le sujet avec des imprimés William Morris, par exemple.
D'accord.
C'est-à-dire qu'en fait, c'est un petit cadeau pour que la lectrice puisse découper les pages. Ouais.
Non, et si on achète 5000 numéros de Marie-Claire Idée, en collant toutes les pages, on peut se faire un papier peint dans sa chambre. Mais quelle bonne idée. Restez avec nous, on n'a pas encore parlé du modèle économique. Ça marche, puisque c'est là depuis 30 ans. Camille Soulérolle, c'est la rédac-chef. Elle est dans Culture Média. À tout de suite.
9h, 11h,
Europe 1 Culture Média.
Philippe Vandel.
Marie-Claire Idée fête ses 30 ans. Nous sommes avec sa rédactrice en chef, Camille Soulérolle, à l'énergie communicative. On n'a pas parlé du modèle économique de Marie-Claire Idée. J'imagine que ça marche, puisque vous êtes toujours là. Le tirage, combien ça vend ?
Alors en fait, nous, c'est assez particulier, mais je trouve que c'est assez aussi représentatif. C'est-à-dire qu'on le sait tous, la presse casse la gueule.
La presse écrite, bien sûr, la presse papier.
Voilà, la presse papier, c'est en moyenne entre moins 8 et moins 12. Ça veut dire qu'instant T, cette année et l'année d'avant, on perd 12 lecteurs, 15 lecteurs, 18% de lecteurs. C'est énorme. Alors en fait, nous, depuis qu'on a repris le mag avec Michel Stéphanie, où on a repris la direction, en fait, on a réussi à passer en positif. C'est-à-dire qu'on fait plus 3, plus 4. C'est-à-dire que les autres descendent et nous, on remonte le long de la vague.
Déjà, se maintenir est une victoire.
Voilà, se maintenir. Et là, on dépasse ça. Donc, on est très content. Donc là, on arrive à des chiffres qui sont... On est à plus de 133 000. Donc, c'est beaucoup aujourd'hui
vente
pour la presse.
Vente numéro ou diffusion numéro ? 133 000 comprenant les abonnés et les ventes numéro c'est quoi la part d'abonnés et de ventes ?
Alors, je pense que là-dedans... Non, je pense au JD. Au JD, je pense que c'est la vente...
On vient de me dire 126 000 en diffusion payante.
Voilà. Alors, Mais je comprends. Alors, sans... oui, en diffusion payante, mais là, je suis désolée, je ne sais, j'ai oublié de demander hier si ça... les abos étaient dedans. Bon. En tout cas, je crois qu'on a 40%
dit...
d'abos.
En tout cas, ça dit quelque chose de vous, c'est que les chiffres vous intéressent moins que le papier peint.
Oui, exactement. Non, en fait, c'est vrai que malheureusement, j'avais préparé quelques chiffres. Alors, non, en fait, l'histoire, c'est que les chiffres importants, c'est qu'on est aujourd'hui à 133 000, ouais. mais on a été à 300 000. Mm-hmm. Voilà, donc c'est beaucoup moins qu'avant, mais c'est très important aujourd'hui. Voilà.
Qui vous lit ?
Alors, ça, c'est assez génial. Parce qu'on a une CSP +++. C'est-à-dire que faut
catégorie
pas...
Catégorie socio-professionnelle.
Professionnelle +++. C'est-à-dire que la fille qui nous lit, les gens disent « Ah oui, tu fais un magazine pour les filles qui s'emmerdent ». Pas du tout. Non, mais en fait, on ne travaille que pour des gens qui bossent. En fait, je les rencontre. Alors là, j'ai bossé pour le luxe. Je me suis rendu compte que toutes les filles étaient fans de Marie-Claire Idée. J'ai bossé pour les musées. Je me suis rendu compte que toutes les nanas qui bossaient à la Réunion des musées nationaux étaient fans de Marie-Claire Idée. En fait, c'est la
c'est
fille...
C'est des babacools ou pas?
Pas du tout, Babacool.
Parce qu'il y a des photos, parce que quand on, fait les... quand on suit votre tuto tricot, on ça, est habillé comme dans les années 70.
Mais pas du tout, mais ça c'est la mode, Philippe, bah, c'est la mode d'aujourd'hui.
Et bien la mode d'aujourd'hui peut revenir aux années 70, sûr. Je ne vous le reproche pas.
Mais non, mais c'est évident. Non, en fait, la fille qui nous lit, c'est la fille qui a un boulot très prenant. Généralement, elle est médecin, avocate et tout, je les ai toutes rencontrées. Et en fait, c'est leur évasion. C'est-à-dire qu'elles achètent le mag. Alors, il y a celles qui sont manuelles et qui vont faire des trucs... Et alors là, je vais vous sortir un chiffre de dingue, parce que celui-là, je l'adore. 40% de nos lectrices ne font rien. Elles achètent un mag où tout est à faire et elles font rien. Parce qu'en fait, c'est une évasion. Et elles se disent, oh, si un jour j'ai une maison de campagne, je vais faire ça. Oh tiens, quand j'aurai un bébé, je vais lui faire une chambre comme ça. Oh, si mes copains viennent, je leur ferai cette recette-là. En fait, elles s'évadent dans ce monde un peu, tout est beau, tout est joli, et c'est une bulle. Et d'ailleurs, les filles, elles nous disent toutes, parce qu'on le voit sur les réseaux sociaux qui sont, où on a un vrai retour sur la communauté aussi, et elles disent, moi, le jour où je vais chercher Marie-Claire Idée, je coupe mon téléphone, je vais au café, je me pose, et rien ne doit arrêter ce moment.
Extraordinaire comme récit. Ouais, très... Vous parlez de filles, il n'y a pas de garçons qui vous achètent ou c'est minoritaire?
Non, alors je dis souvent une blague, mais je ne sais pas, je ne peux pas la dire en tête, mais non, on a 97% de lectrices, 3% de lecteurs. Mais j'ai rencontré un Japonais à Takayama, dans les Alpes japonaises, qui les avait tous, sans parler le français. Donc, énigme.
Parce que vous vendez le magazine à l'étranger?
Oui, alors ça, c'est une histoire très, très belle, complètement dingue pour moi. En fait, c'est que ce magazine n'est pas traduit, d'accord? Mais il est diffusé dans 44 pays. Donc, il y a 44 pays qui reçoivent dans leur kiosque le Marie-Claire Idée.
En français?
En français. Et qui ne parle pas le français. Donc, j'ai eu la chance de rencontrer Monsieur Alice, qui tient le Café de Flore à Takayama, qui m'a montré toute sa collection de Marie-Claire Idée. Qu'en fait-il? Je ne sais pas.
Mais il parle français ou pas du tout?
Ah, il parle français comme moi, japonais, c'est-à-dire pas du tout.
On va parler des réseaux sociaux parce que vous avez également su vous renouveler. Il y a une chaîne YouTube, il y a une page Facebook avec près de 400 000 abonnés. Il y a des tutos en vidéo. Pas de voix, juste des gestes. Là aussi, c'était pour parler à tout le monde.
En fait, on a la chance, parce qu'en fait, un magazine aujourd'hui, c'est du print, c'est-à-dire le magazine imprimé, et du digital. Mmh. Et en fait, le digital nous a permis, avec Marie-Claire Idée, d'attraper une communauté plus jeune. Donc en fait, là, c'est vrai que je pense que sur le digital, on est plus sur des 20-40, et sur le print, on est plus sur des 30-50, 60, par exemple.
Comment vous attrapez ces plus jeunes? Comment vous travaillez en vidéo? Vous avez lancé notamment une série de portraits d'artisans sur les réseaux sociaux. On a fait un florilège, montage.
Être boulanger, pour moi, c'est vraiment un rêve d'enfant.
Je suis Chloé Vavgeniac, je suis chapelière modiste, et donc je fabrique des chapeaux.
Je fais du papier marbré. C'est un métier d'art très ancien, de 15e siècle, qui vient de la Turquie. Ce sont des papiers pour sublimer la connaissance. Souvent, on le trouve garde-page de livres.
Je suis créatrice de bijoux et diplômée en ciselure. Donc, j'utilise la ciselure dans les créations que je fais.
Je suis heureuse pleinement tous les jours quand je fais mon métier.
C'est passionnant parce qu'il y a des métiers dont j'ignorais totalement l'existence. Vous proposez également sur votre site 4000 fiches créatives. Oui. Vous êtes un peu le marmiton de la création.
C'est exactement ça.
Ouais.
Non, en fait, il y a eu un... En fait, ce qui se trouve, c'est Marie-Claire Idée, c'est 30 ans de magazine. Il y a, on va dire, entre, je sais pas moi, plus de 50 ou 100 idées dans un magazine. Ça veut dire... ça veut dire un patron de couture, ça veut dire une idée pour customiser un meuble, ça veut dire une idée pour faire de la gravure sur verre, ça veut dire une idée pour faire des bijoux. Et tout ça, en fait, c'est une mine d'or. D'accord ? Donc, en fait, on a créé un site qui permet, en étant abonné, donc ça, c'est un modèle économique particulier, on s'abonne au site et cette partie payante permet, par mot-clé, de repartir dans le passé. Donc, par exemple, je ne sais pas, moi, vous êtes une instite et vous préparez un carnaval, vous allez taper déguisement carnaval et vous allez trouver 30 ans de déguisement Marie-Claire Idée avec les fiches explicatives pour le faire. Donc c'est une super base de données. Voilà.
Merci beaucoup Camille Soulérolle. Je rappelle, vous êtes la rédactrice en chef du magazine Marie-Claire Idée, dont le numéro spécial 30 ans est disponible chez les marchands de journaux, y compris au Japon. Merci d'avoir été avec nous en direct.
Merci beaucoup Philippe.
Dans un instant, on va parler de l'émission Échappée Belle consacrée à la vallée de la Roya. Là aussi, besoin d'idées, ce sera demain soir sur France 5. Nous serons avec son présentateur Ismaël Khalifa. A tout de suite.
9h, 11h. Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
Bonjour Ismaël Khalifa.
Bonjour Philippe.
Vous êtes l'un des quatre présentateurs d'Échappée Belle, l'émission de voyage et de découverte de France 5 avec Sophie Jovillard, Jérôme Pitorin et Tiga. Vous êtes le dernier arrivé il y a combien de temps ?
3 ans maintenant.
Votre actualité, Échappée Belle, c'est demain soir à 21h sur France 5, émission consacrée à la vallée de la Roya dans l'arrière-pays niçois, à la frontière avec l'Italie. Alors habituellement, cette émission va dans des endroits sublimes. Et là, vous allez dans un lieu qui a été dévasté. C'était le 2 octobre dernier, il n'y a même pas un an, la tempête Alex a tout emporté sur son passage. 10 morts, 8 disparus, 35 km de route endommagée, sans parler des chemins, une dizaine de ponts écroulés. Pourquoi ce choix de lieu géographique ?
Eh bien, pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'est un lieu magnifique. C'est vraiment pour moi parmi les plus beaux paysages que j'ai pu croiser en France. Ces grandes montagnes avec la mer pas loin, tous ces climats qui se croisent, celui de la montagne, celui de la Méditerranée qui est toute proche.
J'ai bien compris, mais pourquoi un lieu dévasté ?
Et en même temps, eh bien justement, ce lieu où il s'est passé une des plus grosses catastrophes climatiques françaises. Et on a voulu aller un an après voir comment les gens s'étaient reconstruits et comment ils avaient reconstruit aussi l'endroit dans lequel ils vivent. On a eu envie de jouer un rôle utile. Échappée Belle, c'est une émission qui a établi un lien très particulier avec ses fans et les téléspectateurs depuis le confinement notamment. On nous en parle beaucoup sur le terrain. Et là, on s'est dit, eh bien, comment être utile nous aussi à cette situation ? Eh bien, c'est peut-être en donnant envie aux gens d'y retourner parce que c'est vraiment magnifique. Et donc, on y est allé avec tous nos codes à nous, la beauté, le drone, les grands paysages, les gens qui font du bien. Et on a raconté comment ces gens-là se relevaient. Et c'était vraiment paradoxal pour nous d'ailleurs de vivre entre ce très beau, cette catastrophe et ces gens très courageux.
Ces gens qui font du bien, très courageux, vous mettez en scène un immense élan de solidarité, ou plutôt vous ne le mettez pas en scène, il préexistait. Des gens sont venus de toute la France et aussi des habitants. Beaucoup de bénévoles sur de très nombreuses opérations. Ils ont réussi à ouvrir un aqueduc quasiment à la main. Avec des centaines de personnes qui se relaient, ils ont apporté de l'eau à un couple d'octogénaires dans la montagne, en kilomètres de tuyaux. Parmi tous les bénévoles, vous avez choisi David, un ancien militaire.
Sincèrement, la première fois que je suis venu dans la vallée, moi ça m'a rappelé la Bosnie-Herzégovine, sauf que c'était pas des bombardements. Il y avait les ponts qui étaient arrachés, des maisons détruites, et ça m'a rappelé entre Sarajevo et Mostar. Voilà.
C'est aussi l'effet que ça vous a fait, les endroits dévastés, des scènes de guerre.
Alors, moi, je relativiserais quand même un petit peu parce qu'il y avait des endroits dévastés. En même temps, beaucoup de touristes qui prenaient plein de photos, d'autres qui faisaient du canyoning et du kayak. Donc, voilà, il y avait quand même une vie très forte. Par contre, c'est vrai que ce qui est très impressionnant, c'est donc que la route est vraiment dévastée. C'est peut-être l'un des chantiers les plus titanesques de France actuellement. Il y a des camions qui travaillent toute la journée et on passe par convoi. Donc, quand vous êtes dans certains villages, vous pouvez partir le matin dans un certain créneau, par exemple de 6h à 7h, pour descendre dans la vallée, il faut que vous attendiez le soir de 15h à 17h par exemple ou de 17h à 20h pour pouvoir remonter. Donc la vie a été organisée autour de la catastrophe et je comprends ce que dit cet homme parce que il y a une sidération quand même des habitants qui vivaient là-bas. C'est quelque chose, jamais ils n'auraient imaginé que le ciel leur tombe sur la tête comme ça. Ce sont des gens qui ont vécu un traumatisme qui les habite tout le temps mais qui justement aujourd'hui ont découvert que dans les traumatismes on pouvait se révéler des valeurs absolument magnifiques comme le dépassement de soi, le dépassement des clivages et qui leur permet aujourd'hui de reconstruire d'ailleurs.
Avant même le dépassement, il y a la découverte. On va voir une habitante de Breil-sur-Roya, elle s'appelle Nathalie, elle est comédienne, elle vous emmène dans le centre-ville de Breil, c'est pas très grand. Et puis ensuite sur les bords de la rivière, c'est la première fois qu'elle revient sur ce site après la tempête. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle est émue.
Là à peu près, il y a une vague de 7 mètres qui est passée.
C'est un tsunami quoi.
C'est la première fois que je reviens moi, Ismaël, ici. Hein, depuis la tempête, ouais. Je suis allée au bord de la rivière parce qu'on a fait des chantiers bénévoles, on a fait des nettoyages. Mais ici, à cet endroit, non.
Pour le moment, t'arrives pas encore à revoir les images d'avant, quoi.
Non, là, moi, je reconnais rien du tout, quoi. Et oui, il y a eu un avant et un après tempête. Ça, c'est
sûr. Bien que tu n'arrives pas à tourner en direction de la rivière.
Oui, oui, j'ai...
Je respecte, hein, y a pas de souci.
Elle est très impressionnée, on le sera à moins. Et vous-même, qu'est-ce qui vous a le plus impressionné tout au cours de ce périple ?
Eh bien, ce qui m'a le plus impressionné, c'est déjà de se rendre compte dans sa chair, dans ses tripes, ce que c'est qu'une catastrophe climatique. C'est-à-dire que là, on n'est plus dans les grands mots, les grands principes, les grands débats. Là, ces gens-là ont vraiment vécu ça. Et à partir de là, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, on n'est plus dans la discussion, dans le blabla, dans s'écharper. D'un coup, il faut reconstruire. Et ce qui m'a marqué, c'est qu'ils s'y mettent tous ensemble. Le maire, le voisin avec qui n'était pas d'accord avec l'autre voisin. Et d'un coup, se confrontent tout plein de choses dont on parle aujourd'hui. Par exemple, c'est les gens là-bas ont survécu, vraiment on peut le dire, hein, parce qu'ils ont été coupés du monde pendant plusieurs jours, parce qu'il y avait des commerces locaux et qui n'étaient pas dépendants de grands commerces à l'autre bout du monde ou même à l'autre bout de la vallée. Parce qu'il y a eu le train qui a permis d'acheminer des secours, par exemple, alors que les voitures ne pouvaient plus passer. Parce qu'il y a eu de la solidarité, les bergers, les producteurs qui sont descendus dans le village pour pouvoir donner aux gens que personne ne manque d'eau, que personne ne manque de nourriture. Et donc, c'est ça qui m'a le plus impressionné. C'est dans ces paysages à couper le souffle, comment l'humain à un moment prend le relais d'une grande catastrophe et arrive à s'en sortir. Et je pense que même s'il y a quelque chose de dramatique dans cette histoire, bah moi paradoxalement je suis revenu de là avec un shoot d'espoir et de courage qui m'a fait un bien fou.
Ismaël Khelifa, un des 4 co-présentateurs d'Échappée Belle, c'est demain soir sur France 5 et c'est dans quelques instants sur Europe 1.
9h-11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
En compagnie d'Ismaël Khelifa, il co-présente Échappée Belle, ou plutôt c'est une émission dont le présentateur change régulièrement. Ce soir, plutôt demain soir, samedi, c'est vous qui vous y collez. Vous êtes dans la vallée de la Roya, c'est dans les contreforts de Nice, pas loin de la frontière italienne. Cette vallée qui a été touchée par la tempête Alex, c'était en octobre dernier. Des routes défoncées, 10 de morts, 8 disparus, beaucoup, beaucoup de dégâts. Et aussi des endroits qui ont été préservés. Tout n'a pas été détruit, évidemment. Vous êtes allé vous promener très, très haut, en haute montagne. Vous avez rencontré Barthélémy. Il est berger, il a un troupeau de chèvres et de moutons avec des races à part, des races locales. Il vous parle du loup et il vous montre dans la montagne les dégâts sur son troupeau.
Ça c'était un bélier que j'avais acheté à 1 mois et demi, que j'avais fait grandir et tout. Puis ici, il s'est fait attraper par l'arrière, il s'est fait bouffer. Parce que l'année dernière, à un moment, j'ai voulu faire comme on faisait il y a 15 ans. Je leur ai laissé un peu d'avance, 5 minutes, et je ne les ai pas retrouvés de suite. Et le loup les a trouvés avant moi. Et donc ça a été un vrai carnage.
Et comment tu les as retrouvés, tes bêtes ? Parce que j'imagine qu'elles ont dû fuir.
Je les ai retrouvées au compte-gouttes. J'ai cherché pendant 10 jours. Et au bout du 10e jour, on a retrouvé une agnelle dans un état pas possible, pitoyable, qui s'est remise aujourd'hui, qui est belle comme tout par rapport à ce qu'elle a vécu.
Et toi, tu continues ? Malgré ça, ça t'a pas découragé ? Parce que j'imagine qu'il y a des éleveurs qui, au bout d'un moment, doivent lâcher l'affaire quand même.
Ah, c'est sûr. Moi, quand je me suis installé, j'étais au courant qu'il y avait les loups. J'ai juste sous-estimé le personnage.
Ouais.
Mais les gens qui vivaient là, qui habitaient dans ces montagnes, et sans le loup, et à qui on a mis le loup sans leur demander, eux, ça a pourri leur vie. Ça a pourri leur vie.
Cet extrême m'a intéressé parce que ce n'est pas politiquement correct. Contrairement à la doxa, vous ne donnez pas la parole aux écolos des villes qui sont dans le métro et qui sont pour la réintroduction de l'animal. Pour quelle raison ? Pourquoi ce choix ?
Eh bien, je dirais que nous, on ne se positionne pas entre doxa, écolo des villes, écolo des champs. Je crois que la force d'Échappée Belle, c'est de donner la parole à tout le monde. Et dans la même émission, on a Barthélémy, ce berger. En même temps, il y a Rémi, un monsieur qu'on voit à la fin de l'émission, qui m'emmène avec sa fille de 4 ans pister les loups, les regarder, les observer avec toute la biodiversité environnante. Donc, on a tout simplement tendu notre caméra et notre micro à une personne qui raconte sa réalité à elle. Et ce qui me plaît dans sa réalité, c'est que la doxa, c'est soit justement de dire que c'est les écolos des villes qui défendent les loups et les gens pleins de bon sens qui seraient contre les loups.
Les gens du coin.
Voilà. Mais là, on voit qu'il y a plein de nuances. C'est-à-dire que ce Barthélémy, il n'est pas anti-loup. Simplement, lui, il a appris à faire avec parce que quand il s'est installé, le loup était là. Mais il comprend que les anciens qui n'ont pas grandi avec le loup soient complètement déstabilisés. Et moi, c'est ce que j'aime. C'est quand on fait passer de la nuance parce que les débats actuellement sont extrêmement polarisés. Celui-là, c'est un de plus parmi des milliers d'autres. Mais ça ne peut pas être les bons éleveurs contre les ayatollahs verts ou les mauvais éleveurs contre les conscients de la planète. Nous, on ne se positionne jamais comme ça. Et moi, c'est ce que j'aime en faisant cette émission. Et je crois que c'est ce que les gens aiment aussi.
Alors, il y a également le train des merveilles. Vous en avez un petit peu parlé. D'abord, c'est un exploit ferroviaire parce qu'elle a été créée dans les années, je crois, 10 ou 20, quasiment à la force des bras, des pelles, des pioches et un peu d'explosifs.
Oui, c'est un chef-d'œuvre, hein, quand même, on peut le dire. En tout cas, c'est une prouesse architecturale, mais c'est aussi le lien de vie de cette vallée. Déjà, ça porte vraiment bien son nom. Quand vous embarquez dans ce train, vous ouvrez les yeux et tout autour de vous se dévoilent des paysages de montagne absolument fantastiques. Enfin, vraiment, c'est un endroit, allez-y l'été prochain, hein, c'est à tomber de beauté. Et en même temps, eh bien, c'est la vie de ces villages qui passent par là. C'est vraiment le dernier relais que les gens ont eu avec la vallée quand tout s'est effondré après la tempête Alex.
Oui, parce qu'il faut le dire, c'est pas une phrase en l'air que vous venez de faire, c'est que en fait le train des merveilles a été construit plus haut que la route et les voies ferrées n'ont pas été détruites. Donc le train pouvait continuer de passer tandis que les routes étaient coupées. Donc il a vraiment servi pour les secours, pour les ravitaillements. Depuis, ce train est gratuit, aussi bien pour les locaux que pour les touristes. Je me suis dit, c'est formidable, mon premier élan. Et puis mon deuxième élan, c'est de me dire, si tout le monde vient, c'est ce paradoxe. Le tourisme fait vivre les vallées reculées. Et le tourisme peut tuer les vallées reculées. Comment sortir de cette contradiction ?
Eh bien, j'aime bien que vous fixiez cette contradiction parce que quelque part, c'est celle que nous, on vit aussi en mettant en avant des endroits comme celui-là. On sait que quand Échappée Belle vient faire un reportage quelque part, souvent, il y a beaucoup de gens qui viennent après. Et je crois que c'est l'une des grandes questions qui va se poser dans l'avenir et même dans le présent. On était à Porquerolles, par exemple, l'année dernière, où il y avait plus de 10 000 personnes chaque jour qui venaient sur l'île. Il y avait des coupures d'eau et on voit bien qu'à un moment, ce tourisme-là, il n'est plus viable. Et moi, ce que j'ai aimé dans la vallée de la Roya, c'est qu'il y a une conscience de ce qu'on fait. Ce sont des gens qui ont décidé d'aller vivre là-bas pour réinventer un peu la société quand même et qui décident de donner du sens à tout ce qu'ils font. Et ce n'est pas un tourisme facile. Ce n'est pas là où vous aurez les hôtels les plus conforts du monde. Ce n'est pas là où vous aurez l'autoroute qui vous emmène au pied de la station balnéaire et de la petite plage. Non, là, il va falloir prendre ses chaussures, il va falloir prendre son sac à dos. Mais à un moment, on se demande comment donner du sens à nos vacances. Eh bien, le plus simple, c'est d'aller là-bas. Ça aidera ces gens et ça vous permettra de découvrir autre chose.
Et puis, je précise, c'est très, très vert. Donc, corollaire, ça veut dire que souvent, il pleut.
Oui.
Comment vous êtes retrouvé sur l'émission ?
Ah, alors ça, c'est une très bonne question. En fait, moi, j'ai été pendant longtemps journaliste de news à la radio, dans un groupe concurrent. Et puis, j'ai travaillé ensuite sur des émissions comme Rendez-vous en Terre Inconnue, où je travaillais à la préparation.
Vous faisiez les repérages, c'est bien ça ?
Tout à fait. J'ai fait quelques repérages sur cette émission. Et puis, après tout cela, je suis parti faire guide en région polaire, parce que quand j'avais du temps libre, je prenais ma tente, mes chaussures, et je partais avec mon épouse marcher pendant des semaines et des semaines, tout seul, avec elle, en amoureux, c'était magnifique.
Attends, vous étiez guide pour votre épouse ? Vous étiez guide pour les touristes qui venaient visiter ?
Non, on était d'abord marcheurs, et de là, en fait, on est devenu guide parce qu'on avait envie de rester dans ces régions. Et j'ai passé quelques années comme ça, entre l'Antarctique, le Groenland, l'Islande. Et au retour, ma femme étant enceinte, il a fallu que je retrouve un boulot. Et par chance, c'est l'équipe d'Échappée Belle qui m'a contacté pour me proposer cette opportunité. Ça croisait mon expérience journalistique et mon expérience de guide, je pense.
Toute petite question technique, mais qui m'intrigue. Vous avez tourné en Australie, en Tasmanie, c'est bien ça, notamment. Question basique, vous préférez avoir trop chaud ou préférez avoir trop froid ?
Alors, personnellement, je préfère avoir froid, sans hésitation. Tout simplement parce qu'en se mettant le bon équipement, on arrive à travailler dans le froid. J'étais au Sénégal au début du mois de juillet pour une émission qui passera le 2 octobre, qui est aussi très forte. Et alors là, 40 degrés, 70% d'humidité, il y a un moment où... quand en plus l'estomac vous lâche, ce qui m'est arrivé, ça devient très compliqué, alors que dans le front, on arrive toujours à se débrouiller.
Je passe beaucoup de détails. Vous avez créé une association avec votre femme et des copains For My Planet. Vous avez aussi une histoire personnelle particulière. Vous êtes originaire d'Annecy, c'est bien ça ?
Complètement.
Votre maman est arrivée d'Algérie, je ne me trompe pas non plus.
Alors c'est mon papa qui est arrivé d'Algérie.
Votre papa, c'est vrai que lorsque vous aviez 12 ans, on vous a fait changer de prénom ?
Alors, en fait, mon père s'appelle Mohamed et ma mère Bernadette. Donc, je crois que ça raconte beaucoup de l'histoire de France, cette rencontre-là. On m'a fait changer de prénom. Non, c'est pas exactement ça. C'est-à-dire que mes parents étaient dans une volonté d'intégration très forte, comme l'ont été d'ailleurs les générations arrivées dans les années 60 en France. Et je m'appelais Ismaël quand je suis né. À l'âge de 12 ans, ils ont décidé de me donner le prénom de Michel en me disant, avec un prénom comme celui-ci, tu t'intégreras toujours sans problème, tu trouveras du travail et tu seras... plus intégré à la société française. Ces générations avaient un désir d'intégration très forte. Donc ça s'est passé comme ça et je l'ai accepté. Mais comme le matin dans la salle de bain, je m'appelais Ismaël et pas Michel, je me disais « Allez, dépêche-toi Isma, quand je suis en retard », eh bien, j'ai décidé de reprendre mon vrai prénom quand j'étais un peu plus âgé.
Le déclic, ce fut lequel ?
Pour reprendre mon vrai prénom, c'est tout simplement que, pour être honnête, j'ai eu des problèmes administratifs à un moment parce que je recevais des fiches de paye au nom de Michel, d'autres au nom d'Ismaël, avec le même numéro de sécurité sociale. Et je me suis dit, il est temps de lever le doute et l'ambiguïté sur tout ça.
Merci beaucoup Ismaël Khalifa. Merci pour ce sourire et cette connaissance des lieux. Je rappelle, Échappée Belle, c'est demain soir à 21h sur France 5 et c'est consacré à la vallée de la Roya. Merci d'être venu nous voir.
Merci à vous, j'étais ravi d'être là.
Culture Média continue évidemment après le rappel des titres de 10h. On va recevoir Bruno Donnet et ses télescopages, moments de réflexion autour de la télévision et une sorte de bilan de la semaine. On est vendredi. Notre invité, il est déjà là dans les locaux, le chanteur, comédien Matt Pokora. Ce soir, il démarre pour la première fois de sa vie au théâtre. Ça s'appelle Les Grandes Émissions, Les Grandes Ambitions, pardon, tout un programme, il sera dans l'émission. Et puis dans Les Indispensables, Margot Barallon va nous raconter la nouvelle série comédie de Disney+, et Laurent Mariotte qui va nous faire faire le tour du monde des beignets. Oui, et puis évidemment, en fin d'émission, l'humoriste imitateur Marc-Antoine Lebray. Quel programme, à tout de suite.